Bonjour Boudadi, Morgane Cadignan, Paul Mirabel, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Paul.
Et nos invités Marie-Monique Robin et Juliette Binoche. La fabrique des pandémies, comme l'a rappelé Ali Rebeilly tout à l'heure, c'était un livre signé Marie-Monique Robin. C'est devenu un documentaire, un film dont nous allons parler tout à l'heure avec Juliette Binoche, qui porte ce film, qui est une journaliste sur le terrain, qui pose des questions, qui incarne exactement, et qui pose des véritables questions pour essayer de comprendre comment naissent les virus, les maladies, comment elles se transmettent à l'homme. Et la bonne nouvelle, en fait, de ce documentaire qui pourrait être totalement inquiétant, c'est qu'il y a une solution et qu'elle est évoquée dans le film.
Alors, laquelle, dites-moi, parce que j'ai pas envie d'écouter l'émission.
C'est ça. Alors, qui chante ça?
Daniel Indochine?
Non.
Ça sent les années 80, mais...
Et, ah ouais, là t'as raison.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que Daniel Patrick Juvet?
Non.
Il chante là?
Oui, c'est lui, ouais.
Daniel a un chant fort?
Non plus.
Je m'éparpille.
La chanson s'appelle Fabriquer.
Leïla.
Oui.
Marc Lavoine.
Exactement.
C'est Marc Lavoine, hein? Mais il n'avait pas encore mué, là.
Non, mais il n'y a pas toujours que la voix comme ça.
Oui, mais quand même.
Je suis d'accord. Ouais, elle est
c'est surprenant.
Ouais. Qui chante ça?
Frank Beach.
Pardon?
Frank Beach.
C'est cool.
Il a assemblé des mots.
Ouais.
Mon grand-père était marin.
Leïla.
Il a dû mourir.
En régie qui? Leïla, ok.
Cabrel.
Oui.
Mon père.
La fabrique,
c'est pas facile. C'est pas non plus très dur.
C'est pas facile.
Mais c'est pas non plus très dur.
Les paroles.
C'est un peu moyen. Oh, c'est un niveau intermédiaire.
Qu'est-ce que je mets sur ces lignes-là? Comment je m'applique? Bah voilà.
Francis.
Et le flagrant délit de fainéantise de Francis, là.
Mais il a trop glacé, du coup.
C'est drôle.
C'est pas trop facile.
Donc, nous jouons avec la fabrique des pandémies. Il y a forcément fabrique dans le titre.
Chaque jouet que l'on jette, c'est l'enfance qui part.
Anne Sylvestre.
Non.
Leïla, Camille.
Non.
La grande Sophie, Morgane.
Là, ce sont les cœurs.
Ah ouais.
Tanguy, Louis Chédid.
Leïla,
M.
Fabrique.
À la fabrique.
Souchon.
Morgane.
Exactement, ouais. Oui.
T'as pas de prénom?
Souchon. Oui, Souchon. Et c'est le soldat rose, c'est pour ça que j'ai fait la main un peu sur, parce que c'est la famille Chédid autour de la soldat rose.
C'est que leurs moteurs sont cachés.
Un point pour Daniel, trois pour Leïla. Qui chante ça?
Deux pour Paul. Paul. Stromae.
Oui.
Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui
premier
n'en
point
ont
depuis
pas.
Octobre.
Quand Paul il trouve une réponse avant de la donner, j'ai peur qu'il fasse un petit AVC. Il tremble.
Je crois que t'as pas tort, c'est ton premier point depuis octobre,
non,
c'est vrai ou pas?
Non,
sur de l'année dernière.
Non.
Manière. L'invention de la musique.
T'as trouvé Jules dans la dernière fois?
Oui, tu te prends pour ma mère. Dans une heure, je reviens.
Là, le titre, c'est pas fabrique, c'est santé, évidemment, puisque c'est l'autre thème. Et qui chante ça?
Daniel Yves Montand.
Non.
Morgane Benabar.
Exactement.
Ah ouais. Oh. Est-ce de ma faute à moi? Si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Allez,
quand j'ai soif, je bois.
Les apéros à notre santé.
On a eu la fabrique, on a eu la santé, et maintenant.
Ah!
Attends, Guy, c'est Dao Virus X.
Exactement, le virus.
Bravo.
C'est pointu, il faut le trouver celui-là. Hein.
Bah,
j'avais hésité à le mettre en Super Banco. J'aurais dû?
J'aurais dû.
Dao, je connais tout.
Le Super Banco arrive, un point pour Paul, un point pour Morgane, un point pour Tanguy, un point pour Daniel, deux pour Leïla, ça n'a jamais été autant équilibré.
Ah ouais,
je suis ému d'arriver pratiquement en fin de saison avec un tel équilibre au sein de l'équipe. C'est triste de foutre tout en l'air comme ça en vous quittant. Qui chante ça? C'est le Super Banco. 3 points et donc la victoire. Ça s'appelle Virus aussi.
Mais l'oiseau.
Oui, ça faisait vraiment
c'est genre.
Ça.
Ouais.
Tanguy, Yann Tiersen.
Non.
Ah, Émilie Tiersen.
Un type qui bricole un peu.
Émilie Loiseau qui fait
l'oiseau. La, ouais, la musique, c'est pour ça.
Tanguy Dionysos.
Leïla, Björk.
Exactement.
Ah ouais,
t'as pas écouté, t'as pas.
Non, c'est bien.
Björk, c'est pour ça que je dis que c'est un peu dans l'esprit d'Émilie Loiseau. Absolument victoire de Leïla Kadour Boudali. Et merci d'accueillir nos invités, Marie-Monique Romain et Juliette
avec Nagui.
Nous allons évoquer avec Marie-Monique Robin et Juliette Binoche d'abord ce film, ce documentaire, mais aussi le livre. Ali Rebaï l'a dit tout à l'heure, il vous avait accueilli pour en parler, il a adoré votre livre. Il date de quand exactement? Il y a 2 ans,
c'est... Alors, ça, le livre, il est sorti version grand format La Découverte, février 2021. Et chez Pocket, janvier 2022.
D'accord. Et tout s'est enchaîné. Et comment est venue l'idée de passer du livre au film?
Alors en fait, je fais toujours très souvent, je fais un film, ça nourrit le livre et tout sort en même temps. Et là, confinement oblige, j'étais dans une maison dans les Pyrénées-Orientales, comme tout le monde, et puis j'ai d'abord fait le livre.
Tout le monde n'a pas la chance d'être dans les Pyrénées-Orientales.
Non, ça roulerait
beaucoup
moins
bien.
J'avais la chance d'avoir une baraque dans les Pyrénées, en pleine montagne, et j'ai appelé sur Zoom. Alors en fait, une centaine de scientifiques, j'en ai gardé 62 pour le livre, et j'ai d'abord commencé le livre. Au début, je pensais que je pourrais pas, parce que j'ai besoin de voir les gens travailler, leur environnement, et en fait, tout le monde était tellement... Enfin, on était dans une bulle, les scientifiques étaient très déprimés, parce que ça faisait des années qu'ils disaient « attention, ça va arriver », et du coup, ça a été une très belle rencontre, par Zoom, par la voix. Voilà.
Alors comment la rencontre s'est faite et comment Juliette Binoche s'est retrouvée finalement en vous incarnant, parce qu'on a, j'ai envie de dire, c'est vous qui êtes la journaliste.
Sur le terrain.
Soyez la bienvenue, Juliette.
Ouais. Bonjour.
C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui posez les questions aux scientifiques. C'est vous qui êtes Marie-Monique, quoi, en fait.
Oui, vous avez vu le film.
Ah oui. Heureusement. Et on a aimé.
Et donc comment ça s'est passé, cette rencontre?
Vous connaissiez d'avant, de toute façon, toutes les deux. Engagé comme vous êtes sur l'environnement.
Non, on s'est rencontrés en fait à l'occasion d'un festival écologique, le premier festival à Porquerolles, et donc j'ai embarqué Marie-Monique dans ce jury parce que j'avais vu ces documentaires qui sont absolument admirables, parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes d'investigation aussi pointus que Marie-Monique, et donc à partir de là, sachant qu'elle allait venir dans ce festival, Marie-Monique a sauté sur l'occasion et m'a dit: j'ai vraiment envie de te rencontrer parce que je veux te parler d'un projet. Et donc, on a parlé de la fabrique des pandémies chez moi. On a déjeuné ensemble et à ce moment-là, elle a commencé à me parler de compétents, pas compétents, généralistes, spécialistes, l'effet dilution. Donc vraiment,
c'était
tout
foutu,
un vocabulaire et un monde que je ne connaissais pas.
Mais pourtant, pardon Juliette, tellement abordable, tellement simple finalement, parce que c'est la réussite de ce film et ce documentaire.
C'est pédagogique.
C'est qu'on peut se dire comme nécessaire. Ça, je vais rien comprendre. C'est des scientifiques, ils vont me dire des trucs trop compliqués. Qui est compétent, pas compétent, qui peut me refiler le virus
en fait,
ou pas.
En fait, on est tous compétents.
Mais
pour changer.
Mais ouais, heureusement non. Et les non compétents, au contraire, nous sauvent et nous protègent justement.
Oui.
Et la véritable découverte dans ce documentaire, enfin pour ma part, c'est de voir que finalement la biodiversité, puisque là se trouve la fameuse solution, la biodiversité permet par moment de créer des ponts, mais surtout aussi de couper certains ponts qui nous relieraient à des virus.
De diluer le danger.
Tout
finalement.
Simplement, et que si on permet cette biodiversité, c'est-à-dire simplement de laisser la nature faire les choses,
et de ne pas fragmenter les forêts,
et certains prédateurs pouvant eux-mêmes réguler la nature, et pour que ces prédateurs et que cette nature soient régulées, il faut qu'ils aient leur maison, leur lieu
espace,
d'habitation,
leur
espace, et donc la forêt. Et pas n'importe quelle forêt, pas une forêt reconstituée d'une monoculture, mais au contraire dans toute sa diversité. Et à ce moment-là, tout irait beaucoup mieux.
Voilà, c'est ça. Mais par rapport à notre, on va dire,
j'aime bien comment elle m'a basé. Et voilà, c'est ça. Alors, je veux revenir.
Non, ce que je voulais dire, c'est que justement, quand moi j'écrivais le livre, tu te disais en gros, il y a plein d'animaux et de micro-organismes potentiellement dangereux pour les humains dans les forêts tropicales. Donc on va se dire, flinguons toutes les bestioles qui vivent là-dedans, rasons les arbres et on sera débarrassés. En fait, c'est tout à fait l'inverse. Mais ces mécanismes qui ont été mis au jour par les scientifiques que j'ai interviewés, ils sont pas si simples à comprendre. Enfin, je veux dire, il faut trouver une manière de le faire.
Vous les simplifiez, en tout cas.
Je me suis dit, connaissant la sensibilité de Juliette pour ces questions écologiques. Je voulais à la fois qu'on ait envie de protéger cette biodiversité. Vous avez vu, on a mis le paquet en termes de moyens pour les filmer. 2 cadreurs, un droniste qui a créé des petits drones pour rentrer dans les forêts, etc. Donc on la filme bien, qu'on a envie de l'aimer. Et Juliette, évidemment très sensible, eh bien, elle est vraiment émue devant la beauté de cette nature et dans la mangrove, toujours.
La scène, la cathédrale, comme vous dites. C'est-à-dire que la scène, on est pris par ses larmes, nous aussi. C'est-à-dire que c'est émouvant.
Important, mais aussi que le côté rationnel, les scientifiques. Moi, mon problème, c'est toujours comment tu fais pour ce que j'appelle de casser le plafond de verre. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup de films. Bon, ils ont eu beaucoup d'audience, tout ça, d'accord. Mais tu as toujours un peu l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont devant toi, quoi. Et ils sont déjà convaincus.
Et que le public est déjà conquis.
Voilà.
Or, votre sujet est de convaincre les autres.
Voilà. Et donc, la présence de Juliette, par sa sensibilité, mais aussi, elle a bossé avec mon bouquin, les questions, quand on travaillait ensemble, etc. Mais ça fait aussi que les scientifiques sont contraints naturellement, parce qu'ils aiment beaucoup Juliette, etc., à faire un effort de pédagogie, parce qu'elle est là avec ses questions.
Vulgariser
dans le monde.
À poser, à être quotidienne, mais au sens positif du terme, en disant, mais alors, que je comprenne bien, lui va manger cet animal, et là, le moustique fera ci, fera ça.
Ou débarrassons-nous des moustiques, parce qu'entre nous, soit dit, on a tous envie de se débarrasser des moustiques. Et vous la posez cette question, vous le dites clairement, et c'est important de vous voir réagir comme ça dans le documentaire, parce qu'on s'identifie complètement, on se dit, voilà, oui, moi aussi, je veux protéger la nature, je veux que le monde aille mieux, mais enfin, les moustiques, vraiment, s'il fallait choisir, on pourrait peut-être s'en passer. Et cette réaction-là hyper naturelle fait que tout d'un coup, par votre rire, on adhère directement.
Mais aussi, ce qui était passionnant, c'est de voir que des scientifiques très différents, vivant dans des lieux différents autour de la planète, aient les mêmes conclusions de ce mécanisme qui se met en route. Et ça, c'est rassurant, je trouve.
Il faut dire que vous avez beaucoup voyagé, Asie, Amérique, Afrique, ce documentaire. Oui. Voilà.
Sept pays dans 4 continents. D'ailleurs, autant dire que c'était vraiment... Enfin, moi, je dis souvent que c'est un miracle de ce film, parce que c'était vraiment, vraiment pas évident de tout faire, les contraintes.
Alors c'est un film qui va être projeté, qui va être diffusé sur Ushuaïa TV et sur France Télévisions, c'est ça?
C'est ça. D'abord, au 22 mai 2022, Jour international de la biodiversité, sur Ushuaïa, la chaîne de l'écologie que tout le monde peut avoir, d'accord. Ensuite, parce que les gens disent c'est où, Ushuaïa TV.
Marie-Monique, prenez votre temps pour le dire. N'ayez pas le sentiment que vous serez interrompu, que vous ne pourrez pas aller au bout de votre phrase.
Non, mais donc, c'est sa nature.
Ushuaïa le 22 mai.
Voilà, Ushuaïa le 22 mai, très belle chaîne de l'écologie, et ensuite France Télé Outre-mer, et ensuite ce qu'on veut aussi.
Le 23 mai.
23 mai. Et ce qu'on veut, c'est qu'il.
Pourquoi Outre-mer?
Parce que c'est plein de chaînes qui sont liées à Guadeloupe, Guyane.
Ça passera également sur la RTBF, ça passera également sur la RTS, la télévision suisse, également sur RSI. Et puis après, il est projeté comme au cinéma, parce que c'est vrai que c'est un bel objet. Il y a des images formidables, et c'est à voir sur grand écran aussi.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait des projections débat. Parce qu'il faut que les gens s'emparent de cette cause. Et vous avez vu, on a 32 partenaires pour faire ce montage, pour le film. Et la FNE, la LPO, les principaux organismes de recherche, l'IRD, l'INRAE. Et partout, nous aimerions que les collectifs s'emparent du film. Là, je viens de faire une tournée, je suis à la 17e avant-première dans plein de villes de France, et je suis à Genève, à Bruxelles, etc. Pour qu'on mette cette question de la biodiversité véritablement au même niveau que la cause du climat. Parce qu'en fait, on ne sait pas tout ça. Vous savez, on a toujours un peu ce sentiment, moi je dis toujours, la biodiversité pour moi par exemple, c'était un petit peu un supplément d'âme pour Bobo, écolo à vélo. Vous voyez, on n'a pas envie que les oiseaux disparaissent. Voilà, c'est important ce côté émotionnel. Mais là, ce qu'on découvre, c'est que la biodiversité, c'est vraiment...
protège.
Voilà, notre maison commune, on dépend d'elle.
Le mot est prononcé, on est tous interconnectés, on est tous liés,
dépendants les autres.
On vit, on vit ensemble sur cette même planète, et cette même planète est la maison aussi bien de la culture, des animaux et des êtres humains, et tant que l'équilibre sera préservé, les choses iront mieux, et dès l'instant, et c'est prouvé scientifiquement, dès l'instant où un animal n'a plus son habitat, sa forêt, son marais, n'a plus de lieu pour vivre, il va se déplacer, voire se rapprocher des hommes. Les hommes vont directement consommer sa viande et pas passer par un autre animal. Il y a des animaux ponts, entre guillemets, qui vont apporter un virus. Et là, notre corps n'est pas préparé, en tout cas, pour lutter. Alors que le virus ne fait strictement rien à l'animal, mais notre corps, lui, n'est pas préparé à réagir.
Et ce qui est important aussi, je trouve, dans la fabrique des pandémies, c'est que ça va à l'encontre d'idées reçues. On pourrait se dire que la viande de brousse, telle qu'on on l'aperçoit de façon très très péjorative, de se dire qu'est-ce qu'ils ont à aller, alors souvent,
elle est malsaine, elle est,
continent africain, ouais. avec tout ce que ça pourrait drainer comme stéréotypes et regards sur l'autre.
Et les Maasai ont tout compris.
Qu'est-ce qu'ils ont à aller manger, ce genre d'animaux, c'est des sauvages, ou même chose avec la Chine et avec l'émergence du Covid, c'est de dire, mais ces animaux-là ont toujours été consommés, mais les conséquences n'ont pas toujours été aussi désastreuses. Et ça vient poser aussi la question de qui sommes-nous, nous, occidentaux, qui nous croyons souvent très très supérieurs dans nos us et coutumes, de regarder ainsi ces populations qui, elles, ont des traditions ancestrales et jusqu'à présent, il ne s'était jamais rien passé pour eux de grave. Donc notre action, quand on dit qu'on est interconnecté, c'est pas qu'avec la nature, c'est rappeler qu'on est quand même interconnecté entre hommes. Et ça, je crois que dans le documentaire, il y a cette idée. Moi, j'ai trouvé ça hyper important de le voir.
La surconsommation, elle est là. Elle est là aussi, parce que, évidemment, il faut brûler des forêts pour planter du soja, pour l'huile de palme, parce qu'elle coûtera moins cher et qu'elle sera immédiatement récoltée. Et que, finalement, toute cette société de consommation détruit aussi des forêts et cette biodiversité.
Mais le film aussi nous fait comprendre que l'élevage intensif, dont on a l'habitude maintenant de voir dans nos pays dits civilisés, développés, et les monocultures sont en fait nos meilleurs ennemis.
C'est ça.
Et le film le fait vraiment comprendre ça.
Mais l'ennemi, c'est intensif.
Pardon.
C'est ce que vous avez
c'est
dit.
C'est l'intensité.
L'intensivité, bien sûr.
C'est là l'ennemi.
Ça, c'est très clair, parce qu'en fait, quels sont les facteurs récurrents qu'on trouve derrière cette longue liste de maladies infectieuses que vous avez vu aussi, on pense beaucoup au coronavirus, mais la liste avant...
Elle a plein. Et ça a toujours existé, et ça va continuer d'exister.
Voilà, alors ça a toujours existé. Ça s'est accéléré depuis une quarantaine d'années, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale.
L'autre mauvaise du doc, c'est qu'il y aura d'autres pandémies.
Voilà, il y aura d'autres pandémies, plus dangereuses probablement que celle-ci, parce qu'on découvre, vous avez vu à travers les exemples du film, que ça tue 30 à 90% des gens, alors là c'est quand même, ça fait vraiment peur. Hein. Donc déforestation, clair, parce que c'est les zones tropicales où il y a beaucoup de micro-organismes potentiellement dangereux, mais qui étaient là depuis la nuit des temps, les chauves-souris. Elles ont toujours eu ces trucs, ces virus.
Le gros avantage, c'est que les chauves-souris, elles bouffent les moustiques.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Donc on en a
c'est
besoin.
Pas la solution de les flinguer, les chauves-souris. Non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on les perturbe, parce que comme vous avez dit, on plante du soja.
Pour nourrir le bétail, pour la culture intensive.
Européen, les cochons bretons, parlons clairement. Hein. Donc moi je dis toujours, si tu manges pas de la viande, enfin mangez moins, hein, ça c'est une chose, ça c'est l'une des solutions, mais si tu en manges comme moi, je mange que de la viande locale, bio, si tu manges pas de la viande bio, c'est qu'elle est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. Moi j'ai filmé ça, ça veut dire on détruit la forêt. On contribue au réchauffement climatique et à l'émergence de maladies infectieuses, d'accord ? Alors c'est pareil avec les palmiers à huile, l'exploitation des mines, vous savez, il y a beaucoup, en Guyane, il y a l'histoire avec l'or, il y a plein de raisons de rentrer dans ces forêts. Mais après, les chauves-souris, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont obligées de partir. Elles stressent, que je trouve assez génial dans le travail des chercheurs, c'est de voir comment ils vont bosser sur le stress des chauves-souris, quoi.
Et comment ils les aiment, les chauves-souris ?
Ah ouais.
On sent qu'il est rongeur.
Il les adore. Il est rongeur. Et les tiques.
On va continuer. Oui, et les tiques aussi. Ouais, la maladie de Lyme, on va en parler dans
population spéciale, les scientifiques.
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses passionnantes.
Scientifique, hein.
Intéressant.
Oui, c'est intéressant de voir l'écologue.
On est là jusqu'à midi et demi. Gardez-en sous le pied. Vous inquiétez pas.
On est bien là.
La fabrique des pandémies, c'est sur Ushuaïa TV. Donc, la semaine prochaine, si j'ai pas de bêtises.
Le 22 mai,
Voilà, dans 5 jours.
Et le 23 sur France TV Outre-mer.
Et le lendemain sur France Télé Outre-mer. On est ravis de vous accueillir, Juliette et Marie-Monique. C'est pas le cas de tout le monde.
Comment ?
Eh non, Morgane Cadignan, elle n'aime pas. Juliette Binoche, elle n'aime pas Marie-Monique Romain.
Juliette Binoche, la dernière fois que vous êtes venue déconner avec nous, on a parlé de la condition des travailleuses précaires. Là, vous revenez pour nous alerter des futures pandémies, mais passez la semaine prochaine à la maison. Je fais une soirée à thème sur les maladies auto-immunes, ça va être super. On attend Nagui Desbronze pour le déguisant en globule blanc et on va passer une très bonne soirée.
Tu attends longtemps.
Voilà, il y aura une piñata stase avec des médocs à l'intérieur, ça va être chouette. Donc, Marie-Monique Robin, vous commencez votre carrière en 89. Paul Mirabel avait moins 8 ans. Vous intégrez l'agence Kappa et vous y réalisez votre premier documentaire, Sida et Révolution. Ah bah dommage, il était bien ce thème aussi pour une crémaillère. Hein. Et depuis, vous êtes devenue une des journalistes d'investigation les plus reconnues de notre pays.
Carrément.
Et je pense que si on ouvre un placard chez Élise Lucet, il y a un petit hôtel. Hommage à Marie-Monique, devant lequel chaque soir elle se tape son petit AV Marie-Monique. Et ce matin, vous venez nous présenter la version docu de La Fabrique des Pandémies, un livre que vous avez publié en 2021. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, mon conseil lecture, si vous êtes encore un peu en train de vous remettre doucement du Covid et tout ce qui s'est passé, si vous êtes hypochondriaque, prenez votre temps. Voilà, une page par jour, on n'est pas pressé, ça se picore. Hein. Prenez soin de vous. On l'a dit en début d'émission, le livre et le documentaire explorent le lien très ténu entre l'écologie, la catastrophe qui se joue au niveau de la biodiversité et des pandémies passées, mais surtout futures. En gros, plus la biodiversité décline, plus ça casse le barrage entre les microbes et nous. La suite, bah, tout le monde la connaît. Pangolin, Chine, confinement, masque, film de Danny Boone sur Netflix. Bref, c'est pas joyeux. Et le défi pour l'humain, c'est donc de préserver les animaux pour nous préserver
c'est
nous.
Gratuit,
putain,
c'est
les amis, quand je pense que quand j'étais petite, parfois, je m'ennuyais et j'écrasais des fourmis pour m'occuper. Vous connaissez les insectes, là, les gendarmes, les trucs rouges, je les écrasais aussi, juste parce que je trouvais ça moche. Et maintenant, je me permets de faire des blagues bien pensantes sur Poutine. Les amis, je les écrasais parce que je trouvais ça moche. Mais qu'est-ce que ça te raconte de moi? C'est quand même une version un peu allégée d'un génocide, cette histoire. Ça fait un peu Mein Kampf version enfant, mon truc. Et puis, c'est bizarre aussi de dire à la radio publique que j'ai tué des gendarmes. Ça fait un petit peu radio. Ça fait un peu terroriste FM, là, d'un coup. Terroriste FM, on tient un concept. Peut-être que la prochaine fois qu'on hurle 13 heures, on peut tirer en l'air en même temps. Après, je lance des pistes, mais mon truc de culpabilité sur les insectes que j'écrasais, ça va. Je me rendais pas compte. Et puis, c'était des insectes. J'imagine pas les remords de gens comme Paul qui tuait carrément des chiots ou des écureuils, quoi. T'imagines? Bon, ça va à d'autres, Paul. Moi, je sais que t'es un psychopathe. Regardez-le. Énormément de talent. Très silencieux. Non violent. Ouais. Toujours bien poli. J'aimerais pas voir l'intérieur de ta camionnette, mon gars, quoi. Franchement, si tu crachais par terre et que t'insultais un peu quelqu'un, je pense qu'on serait un petit peu tous rassurés. Voilà, je viens de gagner ma place à l'arrière de la camionnette. Donc, Marie-Monique, je compte sur vous pour le documentaire d'investigation sur ma disparition. Juliette, peut-être que vous pourrez jouer mon rôle ou à minima un joli post hommage sur votre Instagram avec une photo de moi en noir et blanc, genre légendé, elle n'aimait personne mais on l'aimera toujours. Voilà, un truc un peu élégant. Un truc un peu élégant, un truc un peu sobre, pas comme elle. Bref, je vous fais confiance, vous allez trouver. Bonne émission.
Merci. Morgane Cadignan avec son t-shirt amour en plus.
C'est Morgane Cadignan qui sera jeudi, vendredi et samedi à la Royal Factory de Versailles.
So chic. La fabrique des pandémies, donc, c'est bien là le problème. On les fabrique. Ces maladies existent, ces virus existent, mais c'est de notre faute, il faut dire le mot, si elles se propagent. Marie-Monique, c'est ça le message essentiel. Et vous, surtout, vous dites, il y a une solution pour les arrêter.
Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Parce que je trouve que le film et le livre, il y a quand même... Moi, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient merci parce que ça remet de la cohérence dans ce grand bordel.
Il y a un peu d'espoir aussi.
Et finalement, si tu identifies des causes, c'est que tu peux agir. C'est pas un truc, tu vois, tu te dis, oh là là, le truc, ça fait 2 ans là qu'on est embêté avec là. Donc il y a des causes, et les causes, c'est les interventions.
Mais surtout, on peut agir en allant également dans d'autres bons sens, entre guillemets. C'est-à-dire la forêt amazonienne qui est détruite pour cultiver du soja, qui va nourrir du bétail, qui un élevage intensif, qui va servir à trop manger de viande et pas de la bonne, en plus, pour notre santé. Cette même forêt, c'est le poumon, on le sait, de la planète. Toutes les forêts sont les poumons de notre planète, et on en a besoin pour aspirer notamment la pollution, pour aspirer et pour purifier l'air. Donc tout est très cohérent, très logique, et c'est justement cette cohérence qu'on vient casser.
Oui, tout à fait. Et c'est cohérent, parce que la parole des scientifiques, je voudrais vraiment leur rendre hommage, en fait, parce que, mais c'est pas n'importe quel scientifique, attention, scientifique indépendant, ça veut dire que je travaille pas pour Monsanto,
D'accord, madame.
Voilà.
non, mais là où malheureusement, Marie-Monique, vous avez raison, c'est que il y a tous les jours des rapports scientifiques qui arrivent pour nous dire, le sucre c'est super, voilà, le machin exactement. C'est super, ça, ils sont payés par des lobbies exactement. Qui font ça pour vendre encore plus et pousser à la surconsommation.
Voilà, donc là, il y a eu un vrai casting, quoi.
Oui, un vrai casting, et bon, ils sont nombreux. Quand même. Mais enfin, moi, un scientifique indépendant, c'est quelqu'un dont la rémunération ne dépend pas du résultat de l'étude qui est fait. Donc voilà, c'est, au moins, c'est clair.
Donc il est libre de dire ce qu'il veut.
Donc c'est une des premières questions que vous leur posez quand vous les contactez.
Bah oui, mais ça se voit vite. Ça se voit vite. Parce que les études. Enfin, moi, j'ai un peu l'habitude de regarder les études, parce qu'évidemment, avant des interviews, tu lis toutes leurs études, ils en ont fait parfois beaucoup. Ça se voit vite qui travaille pour l'intérêt général, la manière de construire l'étude. Ouais. Tu vois, c'est ça qui. Voilà. Donc en tout cas, ces scientifiques qui travaillent. Et leur message, il est tellement cohérent. C'est comme un puzzle. Et là, tu te dis, bah oui, quoi. Quand on casse les forêts, effectivement, on se met en contact avec ces animaux qui sont potentiellement réservoirs d'agents pathogènes. L'élevage intensif, ça sert d'amplificateur, c'est très clair. Vous voyez, la globalisation, on balade tout sur toute la planète, dans tous les sens, non seulement les humains, mais tout, quoi. Vous savez, les petits poussins qui partent de Thaïlande pour aller ensuite en Afrique. Ça, c'est la filière de la grippe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on balade tout dans tous les sens. Donc, voilà, c'est les trois causes principales, et on les retrouve ce qui est frappant, c'est que tous ces scientifiques qui travaillent dans des continents différents, qui ont des spécialités différentes, qui travaillent sur des animaux différents, ils disent tous la même chose.
Mais après, c'est du bon sens, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on se dit, c'est de grands scientifiques. Et en effet, et quand ils nous l'expliquent, enfin, quand ils l'expliquent à Juliette, pour dire je me suis identifiée parce que j'ai l'impression qu'ils me parlaient à moi,
ouais, c'est, vrai,
c'est du bon sens. Et je me dis, mais enfin, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va prendre des poussins de là pour les envoyer de l'autre côté? Ça n'a aucun sens. On marche sur la tête.
Ah oui.
Et le biocarburant aussi, qui nous oui. semble absolument parfait, puisqu'on a l'impression, la bonne conscience d'aller vers
polluer,
l'écologie, ouais. enfin la nouvelle solution qui va nous permettre de changer, de faire cette transition écologique, et finalement, elle est perverse parce que qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils coupent les forêts pour pouvoir planter ces palmiers à huile qui fait ces biocarburants. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une logique, mais qui soit réelle et pas une fiction.
Alors,
qui fait en fait que c'est.
Il y a quand même un souci, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète, Marie-Monique.
Oui. Ouais, ça c'est une vraie question.
Et
on voyage aussi de plus en plus.
Voilà, et qu'il faut alimenter. Alors, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est fait entre les voyages, justement, dans les années 70. Avec une map monde, une carte où l'on voit finalement la manière dont les pandémies ou dont la pollution et les forêts disparaissent et ainsi de suite, pas versus 50 ans après, et le fait que ce soit multiplié par, enfin il y a un coefficient très important de nombre de voyageurs, donc de proportions aussi.
J'ai les chiffres aussi.
Et mais ce que je veux dire par là, c'est que
c'est 400 en fait, millions en dans les années 70 voilà. qui prenaient l'avion, hein, et puis aujourd'hui c'est 4,3 milliards avant la Covid. Hein.
Alors on peut dire d'un côté c'est formidable parce que la liberté de se déplacer citoyen du monde et ce n'est pas réservé à une caste et qu'à des riches qui peuvent se balader, tout le monde peut le
progrès,
faire.
C'est le progrès, c'est une utopie à la fois.
À l'inverse, il y a cette liberté de se déplacer, mais il y a aussi tout le marché international qui va faire que l'on va consommer des fruits et des légumes qui viennent du monde entier, eux également en avion.
Ouais. Voilà, et ça conduit au dérèglement climatique, à l'extinction de la biodiversité, à l'émergence des maladies infectieuses. Alors la solution, ben c'est quand même, c'est ce qui est dit dans le film, hein, c'est de développer cette vision globale, holistique, mais à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire qu'on reconnecte. Et donc, on n'a pas plus besoin de faire venir du soja pour nourrir les élevages intensifs, donc ça veut dire que les cochons bretons, ben, on les libère, les pauvres, hein, enfin, on veut plus de... C'est vrai, on veut plus de grosses machines à cochons, vous voyez, et les poulets, c'est pareil. Ça veut dire que l'huile de palme qu'on fait venir d'Indonésie pour la raffinerie totale dans les Bouches-du-Rhône, parce que c'est une réalité, eh bien, pour mettre dans le diesel, eh bien, on ne fait plus ça, vous voyez. Pour la question des voyages...
Il faudrait quoi, à votre avis? Que ce soit une décision politique?
Oui.
Ou est-ce que c'est vraiment nous, les consommateurs, chacun avec notre mode de vie, notre la politique?
Alors, moi, ça m'énerve.
Les deux.
Laisse ça répondre d'abord. Oui.
Les deux.
Tu t'énerves après.
Oui. Déjà, nous, on peut faire des choses, et c'est pas rien. Parce que vous voyez bien, on est tous pareils. Enfin, depuis 2 ans, c'est une espèce de marasme, on comprend rien ce qui nous arrive, etc. Donc, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Si tu comprends, tu peux agir. Et tu vas mieux quand tu prends des actes. Moi, je connais plein de gens qui ont fait ça.
Qu'on est en cohérence.
Qui ont changé de cap et qui vont mieux. Et y compris des bacs plus 5, 10. Vous avez vu d'ailleurs avec la vidéo récemment, bravo les 7 jeunes ingénieurs agronomes qui disent déserte, quoi. Ouais. Ben oui, parce que on peut le faire. Donc, ça veut dire manger moins de viande, ça veut dire voyager autrement. Il s'agit plus de ne plus voyager. Pas voyager, mais voyager autrement. Ça veut dire réduire sa consommation de vêtements qui viennent de Chine. Enfin,
ou de pas acheter de la nourriture sous plastique dans les magasins bio, qui c'est complètement absurde.
Ou ne serait-ce que suivre les saisons déjà et manger
local. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire.
Ouais.
Et c'est super parce que dans ce cas-là, tu te reconnectes avec des gens qui partagent ce genre de choses et ça fait du bien au moral déjà. Je trouve que c'est une bonne
ça
raison
crée une
de
communauté.
Faire.
Et il faut donc rajouter une couche aux politiques, c'est ça?
Ah bah après. Après, si tu veux, il y a 3 niveaux. Niveau international, quand moi j'étais à Genève pour présenter le film il y a 10 jours, il y avait l'OMS, tout ça, tous ces gens. Il y a tous les rapports qu'il faut changer de l'agriculture, que le climat et ça va plus, que la biodiversité, tout est là. Au niveau local, il y en a plus en plus de citoyens qui comprennent ça. Plein, vraiment. Et moi j'ai fait un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend là-dessus, les trucs en transition. Il y a plein de groupes, de collectifs, super. Là où ça bloque, et là, on vient d'avoir un nouveau Premier ministre, Première ministre. J'espère bien que ça va rentrer dans le logiciel.
Elisabeth Borne. Oui.
Ouais. Moi, je demande à voir. Voilà. C'est au niveau national. C'est-à-dire, comment oui, on fait pour
ils, ils vont vous répondre, on fait partie d'une communauté économique européenne et que donc si nous
on
nous disons quelque chose,
c'est la grande.
Ouais, on y a cru à l'histoire du glyphosate qui va s'arrêter.
Ça va s'arrêter, vous verrez un jour.
Oui, mais le seul problème, c'est que si ça s'arrête et il y a même des produits, des pesticides qui sont interdits en France, qui sont épandus sur des maïs qu'ensuite nous importons et que nous mangeons. Donc
c'est pas
l'Europe qui fait un problème. On a pas perdu notre souveraineté non plus.
Ce sont les échanges, pardon.
En fait, soit on a vraiment compris. Moi, j'ai souvent, c'est pas de chance, ça tombe sur nous, sur notre gueule à nous. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, tout ça, c'est des trucs énormes qui sont en train d'arriver.
On l'a cherché aussi.
Oui, mais n'empêche que, je veux dire, c'est à nous, ça tombe sur nous parce que c'est nous qui devons prendre maintenant, nous, collectivement, des mesures importantes pour éviter.
Pour nos enfants.
Ouais. Moi, je pense à nos enfants, puis Juliette, c'est pareil. On pense à nos enfants, petits-enfants qu'on aura peut-être.
Et puis à tout ce qui est vivant sur Terre les animaux.
Tout est lié, on le sait, on l'a compris. Ouais.
Alors,
tout est lié,
soit on le comprend, et moi, je ne perds pas l'espoir que les hommes et femmes politiques le comprennent, parce que quand même, les infos circulent, leurs enfants les poussent au cul, excusez-moi l'expression, parce que les enfants les poussent,
carrément.
Pour se dire... C'est maintenant, et il peut y avoir un effet domino. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a quelqu'un qui doit commencer.
Mais Marie-Monique, je pense qu'ils l'ont compris. Je pense qu'ils ne sont pas idiots, hélas. Enfin, ou heureusement.
Ils ont compris.
Mais il y a peut-être trop d'intérêt en jeu de l'autre côté.
De là, passer à l'action, la gouvernance, c'est autre chose que. Voilà.
Oui, mais c'est pareil. Il faut se dire qu'on peut y arriver. Moi, j'ai toujours qu'il est trop tard pour être pessimiste.
On a raté un énervement de Daniel Morin. Vas-y, énerve-toi maintenant.
C'est quand on dit à tout le monde, chacun, vous savez, le truc du colibri.
Oui.
Oui. Et moi. On a nos élus.
Chacun amène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie
géant.
Je fais ma part.
Oui, mais quand on voit les accords internationaux, à chaque fois on dit « oui, il faut faire quelque chose, on est conscient ». On vient de nommer Elisabeth Borne sa première priorité, sa grande priorité
l'écologie.
Après la réforme des retraites. Ce sera l'écologie, mais je pense qu'on se fout de nous. De toute façon, les accords internationaux, on en a besoin pour vendre nos industries, pour tout vendre. Et à chaque fois, ce sont des voyages en cargo, sont des voyages en avion, et les plus gros pollueurs sont les Américains, sont les Chinois, et à nous, on fait la leçon. À chaque fois. On nous dit,
Compliqué, et il faut commencer à donner un exemple. C'était par exemple, peu de temps après les élections, après avoir dit l'avenir sera écologique ou ne sera pas, il y a eu un vote qui s'est passé à l'Assemblée européenne, notamment pour la pêche industrielle, avec les filets qui dévastent tous les fonds marins.
Et la pêche électrique aussi.
Voilà. Et des membres du parti LREM, pour ne pas le citer, ont voté pour cette pêche-là. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire de dire tout et son contraire en 48 heures.
Je suis d'accord. Peut-être qu'on peut se dire aussi qu'on est entre deux mondes. Ça, c'est une phrase de Gramsci que j'aime beaucoup, qui dit nous sommes donc le vieux monde est en train de s'écrouler, le vieux monde tarde à poindre, et dans l'entre-deux surgissent les monstres. Et les monstres, on les voit, les Bolsonaro, les Trump, les machins, il y en a partout des monstres. L'entre-deux-monde, ça veut dire que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. L'entre-deux-monde, ça veut dire qu'il y en a qui s'accrochent au vieux monde parce que c'est leur intérêt à court terme.
Personnel.
Mais ils sont dans leur bulle. Et moi, mon propos, et c'est pour ça qu'on a fait ce film, c'est de se dire, c'est ces gens-là qu'on veut toucher. Et moi, je ne désespère pas d'y arriver parce qu'on est dans un Titanic.
Donc il faudrait rendre l'écologie capitalistique.
Parce que
ces gens-là, s'ils trouvent un intérêt financier, à ce moment-là, ils vont réagir.
C'est tout un... Moi, j'ai fait un livre aussi là-dessus, Sacré Croissance. Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais moi, je pense qu'on peut arriver à les convaincre que quand on est dans un Titanic, vous savez comment ça se finit. Dans leur tête à eux, vous savez, c'est les 1% qui possèdent autant que 3 milliards, 500 millions, etc. Ils se disent, on aura les petits bateaux et on pourra s'en tirer.
Non, on aura la chaloupe.
La chaloupe. Non, parce qu'en fait, ce qui est en train de se jouer là, c'est absolument énorme, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Donc, on ne pourra pas s'en tirer. Donc, moi, j'espère qu'on peut les convaincre, on doit changer de cap. Globalement. D'ailleurs, tu sais, le film, on a été invité pour le présenter à Davos au World Biodiversity Forum le 1er juillet.
D'accord.
Ça serait bien qu'on y aille ensemble. Enfin bref. Moi, je vais y aller parce que il y aura peut-être parmi ses patrons.
Il y aura tous les plus riches du monde.
Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Soit tu te tires une balle dans la tête, c'est pas du tout mon truc. Soit tu vis dans un bunker, c'est pas non plus mon truc. Alors, tu fais quoi?
Tu cherches à convaincre les autres.
Tu cherches à convaincre. Et tu restes debout.
C'est réussi.
Mais la vraie question, c'est le titre de votre film, c'est qu'est-ce qu'on attend? La vraie question, c'est ça.
Un changement dans le cœur. Il y a aussi ça, parce que c'est pas seulement d'avoir que les scientifiques nous parlent, qu'on comprenne tous les mécanismes. Il s'agit à un moment donné de voir l'autre, de se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça que dans le film, La Fabrique des Pandémies, à la fin, on parle des pauvres. Parce que si on ne fait pas ce lien-là entre ces grandes questions de l'écologie, cette transition qu'on doit faire, si on n'est pas relié à celui qui ne sait pas comment faire pour nourrir, qui meurt de faim et tout, on ne peut pas changer notre situation et cette grande vague de conscience. Parce qu'il s'agit en fait dans notre cœur de faire un tout petit mouvement qui permette à l'autre de pouvoir exister dans sa réalité qui est différente de la nôtre, soit, mais qu'on doit considérer, de faire un lien avec l'autre. Et cette interconnexion, je dirais presque qu'elle démarre de là. L'écologie est une conséquence de quelque chose qui change dans le cœur. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et tant que les politiques n'auront pas compris ça, il n'y aura pas de véritable changement.
On va accueillir tout à l'heure Rodolphe Gozlan, pardon, professeur.
Directeur des ventes chez Monsanto.
Monsanto, c'était un livre aussi de Marie-Marie, qui intervient dans le film et qui est directeur de recherche en écologie de la conservation au sein de l'Institut de la Recherche pour le Développement. Il sera notre invité dans quelques minutes pour parler de la biodiversité. Mais d'abord, voici venir Paul Mirabel qui s'étouffe de bonheur.
Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour Leïla, bonjour tout le monde.
Copain.
Ça va, tout le monde va bien.
Très bien, et toi?
Mais écoutez, moi aussi, ça va. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la dernière fois qu'on s'est vu, il faisait froid. alors que ce matin, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui a osé mettre des tongs. Oui, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'ai eu un eye contact aussi prononcé avec un orteil. Très étrange d'ailleurs, puisque son petit orteil était plus gros que son gros orteil. Oui, tellement gros qu'à mon avis, il payait des impôts et un loyer. mais cette rencontre avec une tongue, je crois que c'est symptomatique du fait qu'il commence à faire chaud en France. Je le vois parce que hier, je suis allé au supermarché acheter une glace à la fraise. Okay. Le temps que je rentre chez moi, c'est d'être devenu des fraises.
C'est déjà pas mal, finalement.
Oui, voilà. D'un point de vue totalement personnel, je vous avoue que ça ne m'arrange pas vraiment en plus qu'il fasse chaud, puisque autant habillé, tu peux avoir le doute, autant torse nu, je ressemble vraiment à une tranche de pain de mie. je l'ai vu parce que ce week-end, je suis allé à la plage, il y a quand même quelqu'un qui m'a appelé Harris et qui m'a couru après avec du beurre et un couteau. Vraiment, moi, sans vêtements, je ne ressemble à rien. Pour vous donner une image, si là, je me mets torse nu, tu ne peux pas vraiment dire si je suis de dos ou de face. Après, je me plains un peu qu'il fasse trop chaud à Paris, mais j'ai vu hier aux informations qu'actuellement au Pakistan il faisait 50 degrés, et quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait à Paris ça va, peut-être que je vais même aller mettre une petite laine. Je me suis renseigné sur le sujet du coup, il y a des chercheurs qui expliquent que le fait qu'il fasse 50 degrés au Pakistan, ce serait peut-être, je dis bien peut-être, dû au réchauffement climatique. Alors je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que les chercheurs, ils n'ont pas très bien cherché, puisqu'il y a quand même plus de chances que ce soit dû au réchauffement climatique plutôt qu'à la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4. Je vous cache pas d'ailleurs que je suis assez inquiet face à ce réchauffement climatique, c'est le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque d'après les scientifiques, 50 degrés c'est le seuil fatal pour la santé humaine. Alors si je puis me permettre, non, je pense que c'est moins, puisque moi une fois je suis sorti marcher sous 34 degrés, je n'entendais plus rien de l'oreille droite, et la gauche ne comprenait plus que des paroles de Francky Vincent. Donc jusque là vous rigolez, mais j'ai déjà passé une journée en entendant exclusivement Tu me montes zizi dans l'oreille gauche. Par contre j'ai une critique à faire moi sur le réchauffement climatique, s'il nous écoute, c'est qu'il intervient jamais au bon moment. Par exemple, moi cet hiver j'avais plus de chauffage chez moi, et ben j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu du réchauffement climatique, puisque ce n'est pas normal de s'endormir avec une doudoune North Face. Mais je crois que j'ai compris pourquoi on n'avance pas vraiment sur ce sujet, c'est bien parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est que parfois c'est un peu compliqué de s'engager de manière concrète. Par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a des gens qui organisent des marches pour le climat. En gros, ils crient en marchant, ils disent qu'il fait trop chaud, sauf qu'ils le font le 15 août à 14h. Moi on m'a proposé une fois, je dis ben non, il fait trop chaud pour faire une marche contre le climat. Vraiment, en plus, c'est très paradoxal notre façon de s'occuper de ce problème. Moi, il y a une certaine forme de logique que je comprends pas. Par exemple, quand il fait chaud, on met la climatisation. Sauf que mettre la climatisation, ça réchauffe encore plus la planète. Bah oui. Donc, il y a un petit problème dans l'énoncé quelque part. Moi, j'essaie de m'engager, tu sais, à ma petite échelle sur le réchauffement climatique. Par exemple, là, pour sauver la planète, j'ai acheté un scooter électrique. Le problème, c'est qu'il fait pas de bruit. Je crois que même mon scooter, il est timide. Du coup, c'est moi qui suis obligé de faire le bruit au feu rouge. Et la dernière fois, j'étais en train de faire le bruit d'un clignotant. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment en train d'être ridicule pour sauver la planète? Par contre, même si c'est compliqué, parfois, moi, je comprends pas comment le réchauffement climatique n'est pas une priorité pour tout le monde. Surtout quand on nous annonce qu'il y aura des villes qui seront sous l'eau dans 30 ans. Ce qui va quand même donner lieu à des phrases telles que ce week-end avec les enfants, on est parti à Chamonix, la mer était super bonne. Et il y a même des gens, tu sais, totalement saugrenus qui vont plus loin dans la démarche et qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas. À Marseille, on fait des barbecues en janvier, mais apparemment, ça n'existe pas. Surtout que ça n'a aucune rationalité, je trouve, de dire ça, puisque, admettons, admettons, même si le réchauffement climatique est un complot, je ne vois pas à qui ça profiterait qu'il fasse 3 degrés de plus sur Terre, à part à un dragon. Mais j'ai une proposition moins concrète pour les gens qui sont climato-sceptiques. Si vous êtes strictement convaincu que la planète ne se réchauffe pas, je vous propose de prendre la ligne 13 à Saint-Lazare un vendredi aux heures de pointe. On verra comment vous gérez quand votre oreille gauche ne comprendra plus que les paroles de Francky Vincent.
Merci, Paul Mirabel.
Paul, tu joues quelque part ?
Oui, en tournée à partir de septembre et le 13, 14, 15 et 16 mars 2023 au Grand Rex.
Ouh là là,
si vous très bien, évidemment, évidemment. La fabrique des pandémies, justement, puisque Paul Mirabel évoque les climato-sceptiques, ça vous met dans quel état, Marie-Monique, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais non,
ça existe
va,
encore.
On exagère, ils en font trop, voilà. C'est n'importe quoi. »
Maintenant, je les ignore parce qu'ils sont un peu tellement ridicules. Mais ce que je crains maintenant, c'est qu'il y ait des biodifs sceptiques qui la ramènent. C'est-à-dire au fur et à mesure, et on commence à le voir.
Des sceptiques de tout.
Oui, mais en fait, ouais. c'est pas rien. Climato-sceptique, vous savez, ça veut dire que ce sont des scientifiques qui ont été payés pour raconter des sornettes et puis dire qu'il n'y avait pas de dérèglement climatique. Mais on peut avoir la même chose maintenant pour dire, bah non, c'est pas nous qui nous n'avons rien à voir avec la disparition des... Par exemple, des oiseaux, vous savez, 30% des oiseaux ont disparu au cours des 15 dernières années.
Incroyable nombre d'espèces qui disparaissent dans ces dernières
années. 1 million menacées d'extinction. Ouais. 60% des vertébrés qui ont disparu au cours des 40 dernières années. Alors, moi, ça me rend dingue, quoi, parce que nous, on est quoi, nous?
Il faut simplement dire que jamais sur la planète, il y a eu autant d'extinctions aussi rapides et que c'est barré pour que nous soyons la prochaine.
Bien sûr. On parle de 6e extinction des espèces. Ouais. Je rappelle que la dernière, la 5e, a eu lieu donc il y a 65 millions d'années. On pense que c'est un météorite qui est tombé sur la planète, qui a flingué tous les dinosaures et compagnie. 83% de la biodiversité a disparu à cette occasion. Vous voyez, nous, les humains, en 2 siècles, on provoque la 6e extinction des espèces. Mais ce qui me rend dingue, c'est que on pense que ça peut continuer. Les mammifères vont disparaître. 1/4 des mammifères sont menacés d'extinction dans un délai très proche. Tout ça va disparaître. Et nous, on est quoi? On n'est pas des vertébrés, des mammifères. Comment on peut penser qu'on ne s'est pas lié? Et pour ça que l'histoire des lémuriens dans le film, ces tout petits primates magnifiques, enfin petits, il y en a qui sont gros d'ailleurs, ces primates qu'on ne trouve qu'à Madagascar, eh bien, qui sont menacés d'extinction, on comprend que s'ils disparaissent, alors d'abord ça nous rend triste, qu'on n'aime pas, ils sont jolis, tout ça, mais s'ils disparaissent, c'est que leur forêt a disparu. Ils ont besoin de la forêt pour vivre. Si la forêt a disparu, c'est que le climat s'est déréglé, qu'il y a de plus en plus de cyclones. Donc on est liés, vous voyez.
Il y a une scène formidable d'ailleurs à Madagascar avec l'idée de refaire naître une forêt dans sa biodiversité, c'est-à-dire différents arbres, surtout pas les mêmes, c'est ça. Mais ça va prendre des siècles aussi. Parce que
non, 20 ans.
En 20 ans, une forêt
peut naître. En 20 ans, on peut commencer vraiment à reconstruire une forêt.
Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on brûle une forêt, ça prend 2 jours, il y a des hectares qui disparaissent, des 10, 15, 20 terrains de foot par heure qui sont brûlés.
À Madagascar, il y a 90% de la forêt qui a été brûlée, coupée. C'est énorme. Il ne reste que 10% de la forêt.
Mais qu'est-ce que ça dit psychologiquement de nous, de voir tous ces signes avant-coureurs? Vous le dites, la disparition de tel élément qui montre bien que de toute façon, on est en train de bousiller. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, au fond? Moi, c'est la question que je me suis aussi posée en regardant le film, parce qu'une fois qu'on admet clairement les données qui sont expliquées, qu'on voit très bien que la marche du monde ne va pas dans le bon sens, je me dis, mais qui sommes-nous, au fond?
Alors, moi j'ai posé cette question parce que ça me perturbe, ça fait des années. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'avais posé la question à William Rees, qui est l'inventeur du concept de l'empreinte écologique. C'est un biologiste qui est de l'Université de Vancouver. Et il me dit, alors voilà, nous, les humains d'aujourd'hui, on a les mêmes gènes que nos ancêtres préhistoriques, hein, et on est programmé pour réagir à un danger immédiat. Un ours qui débarque dans une grotte, par exemple, on se bat en courant. Et on a du mal à anticiper Alors, tu te dis, ouais, d'accord, mais enfin, quand même, les gens du néolithique ou les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas tous les rapports du GIEC, tout ce qu'on sait, quoi, parce que c'est ça qui est dingue, tout ce qu'on sait. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on soit dirigé quand même par un système économique qui est à très court terme, vous comprenez, et qui fait qu'on est embarqué là-dedans? C'est bien dit dans le film, d'ailleurs. On est embarqué là-dedans, on ne voit même plus les conséquences de nos gestes, qu'on nous encourage à consommer, surconsommer, à faire venir des t-shirts à 3 balles de Chine, etc. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas. C'est vraiment...
C'est un mystère. Pardon, mais même quand on essaye... Et
il y a un truc philosophique, quoi, là-dedans,
je trouve. De faire du bien en disant, on va prendre une voie voiture électrique, derrière, on vous dit, ah oui, mais la voiture électrique, pour la fabriquer, il faut creuser dans la terre, prendre du lithium, abîmer la planète, et puis les batteries qui servent aux voitures et qui ne polluent pas, peut-être dans un premier temps, vous en ferez quoi quand elles seront déchargées? Et à un moment donné,
mais c'est devenu une telle aubaine pour la surconsommation, après c'est bon,
on en sort
plus,
alors,
voitures ne font plus que ça.
C'est ça. Et puis après, quand tu fais du vélo, le vélo, oui, mais le vélo lui-même devient électrique, avec aussi des batteries qui, elles, également polluent. Donc
il y a le nucléaire dans l'électrique, faut quand même pas l'oublier, qui est pas la
solution.
Solution, quoi, parce que à l'arrivée,
Le charbon non plus n'est pas la solution.
Vélo nucléaire.
Mais je pense que là, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème philosophique. Et d'éthique. Alors, ça paraît peut-être ringard de dire ça, mais on ne s'en sortira que si cette vision éthique revient au premier plan. Alors, dans le film, on voit l'exemple des peuples premiers, comme les Maasai. Alors, on va dire, c'est anecdotique, tout ça. Non, on doit, nous humains, repenser notre place.
Super brillant. Il y en a un qui est d'abord formidablement beau, qui prend la parole. Il est bouleversant dans sa manière d'expliquer les choses et de l'importance, encore une fois, de la biodiversité. On va en parler tout de suite avec le professeur Rodolphe Gozlan. Je voudrais juste vous poser une question sur justement cette peur immédiate. On sait réagir si un ours arrive et nous fait peur. Bien que je ne sois pas sûr de savoir comment réagir le jour où ça m'arrivera, mais de ce danger immédiat qui se pointe, ça a été le cas avec la Covid, ça a été un danger immédiat qui s'est pointé sous nos yeux, on a tous eu peur, on a tous parlé du monde d'après en disant « ça va changer des choses », et en fait ça change rien.
Non, parce qu'en fait je pense qu'on est trop resté. Alors c'était légitime de se dire « je vais pas rentrer dans le débat vaccin, machin, tout ça, ça vaut un livre à part entière », mais en tout cas... d'essayer de faire une gestion à court terme de cette crise, ça c'était légitime, d'accord ? Mais on aurait dû, en même temps, et on ne l'a pas fait pour l'instant, en parallèle, en même temps, c'est un mot à la mode.
Oui.
Et parce qu'on arrive à faire deux choses à la fois.
Développer une vision à moyen et long terme et écouter les écologues de la santé, notamment, qui sont dans notre film, comme Rodolphe Gozlan qu'on va entendre. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils n'étaient pas présents dans le conseil scientifique qui entourait le président, c'était des virologues, c'était pas cette vision globale qui fait qu'est-ce qu'on fait pour éviter les prochaines pandémies. Et la bonne nouvelle, parce que j'insiste sur la bonne nouvelle, c'est que si on prend les bonnes mesures, c'est aussi bon pour le climat. C'est bon pour la santé globale.
J'ai expliqué avec la planète et avec le.
Qu'est-ce qu'on attend? Parce que c'est des mesures hyper efficaces, quoi.
Qu'est-ce qu'on attend, professeur Rodolphe Gozlan? Bonjour, bienvenue à ce micro. Qu'est-ce qu'on attend, à votre avis?
D'abord une prise de conscience, je pense que voilà.
Elle est là.
Tout ce que vous avez dit. Elle est là. Elle est là, mais en fait, on a du mal à se repositionner sur cette prise de conscience en sachant individuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et quand vous disiez, qu'est-ce que ça dit de nous? En fait, c'est surtout la vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit de nos gouvernances? Parce qu'on est dans cette situation à cause de nos gouvernances, pas à cause de l'humain. L'humain, il réagit aux règles, aux législations.
On ne peut pas se cacher derrière nos gouvernances. Les gouvernances, c'est nous. C'est nous.
La gouvernance, ça n'est pas, c'est nous à partir du moment où on agit en tant que groupe social, avec un pouvoir de consommateur, comme vous en avez parlé de ça.
Ça, c'est un vrai pouvoir.
Mais c'est le seul pouvoir, en fait. Le pouvoir de se dire, je dépense mon euro là ou là. Mm-hmm. Et en fait, ça demande un effort aussi individuel de penser que tout n'est pas gratuit. Et que si les choses sont gratuites, c'est que c'est payé quelque part. Mmh. Et nous, on a une façon
à
de
la
voir.
Fin, si c'est gratuit, c'est que nous sommes le produit. C'est
aussi, ça peut être sur certains réseaux sociaux.
En tout cas, si j'achète un t-shirt à 3 euros, vraisemblablement, la façon dont
il est
consommé,
il est répercuté quelque part.
C'est que moi, je vais en souffrir aussi.
Donc, il y a une vraie réflexion à avoir.
Pardon, je suis pas d'accord. On peut acheter aussi des t-shirts à 25 euros, sauf que ça a coûté que 1 euro au mec qui nous le vend et lui, il va faire une marge de 24.
Oui, alors, c'est pas une question de coût. T'as raison, c'est là où je vais l'acheter et si je sais pas. Si je veux être aveugle et pas me renseigner sur les conditions de production
et d'où il vient,
de l'objet.
Qui l'a fait, dans quelles conditions.
Et pour combien il a été payé et combien je le paye.
Et après, tu l'échanges si t'en veux plus.
Voilà. Finissez ça prend un temps fou le shopping avec vous.
Finissez il faut lire les étiquettes.
Ça vient d'où, pour ça, pas souvent, en fait.
Il faut lire les étiquettes.
Ce que je veux dire, c'est que les auditeurs qui écoutent aujourd'hui vivent dans une société qui est tellement différente des trois quarts de la planète. Dans les trois quarts de la planète, les gens vivent dans des conditions de survie, en fait. On voit très bien que les crises alimentaires qui vont arriver vont faire basculer ces sociétés très rapidement vers l'instabilité, vers la violence, vers des reprises de pouvoir, mais qui auraient pu se passer de façon démocratique et simple, qui vont se faire parce que c'est une question de survie. Nous, on vit dans une société qui est assez stable, qui est assez...
qui surconsomme.
Qui est surconsommée. Et cette crise du Covid, elle nous a fait prendre conscience qu'en fait, on pouvait pas se dire c'est leur problème, c'est un problème bien loin. En fait, on s'aperçoit qu'on... vous en avez parlé, hein, on est tous sur une petite planète. Maintenant, ces déséquilibres qu'on a créés, ce sont des déséquilibres économique au départ. L'écologie, c'est ça, hein, c'est un déséquilibre d'un système. Alors on a des systèmes sociétaux qui sont en déséquilibre, on a des systèmes économiques qui sont en déséquilibre, après ça se répercute sur des déséquilibres climatiques et sur des déséquilibres sociétaux. Et là, on est dans des moments de basculement. On le voit au niveau de la nature, mais on a aussi ça sur des questions purement politiques et de gouvernance, quoi.
Daniel.
Après, je pense qu'un des soucis aussi basiques et reptiliens que ça puisse paraître, on n'a pas peur de ce qu'on voit pas aussi. C'est ça le souci. On voit pas devant nous des forêts qui sont ravagées. On voit dans des reportages des choses comme ça. C'est comme la pollution. Si on n'a pas une rivière ou une mer qui est complètement couverte de sacs plastiques, on se dit ah oh là là c'est bien dommage. Mais nous on l'a pas devant nous. C'est comme si on avait le virus.
Si, pardon, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand je traverse la France en train ou quoi et que je vois la campagne française, moi je suis mais dépitée. Je suis déprimée, mais parce que je vois des champs sans arbres qui ont été complètement coupés par le remembrement en 60, 70, etc. Et qu'il n'y a pas de forêt qui, à part le sud de la France, mais c'est les mêmes arbres, c'est les chênes verts et les pins qui ont été plantés comme ça. Mais la diversité de la forêt n'existe pas plus pratiquement en France. Et je trouve que la France est défigurée. Moi, je voyage en Angleterre, par exemple, en train, vois, il y a beaucoup d'arbres, c'est complètement
différent. Binoche, le problème, c'est que tout à l'heure, on a pointé du doigt l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage et autres. Il faut respecter aussi les agriculteurs individuels qui ont des champs, qui ont des cultures. Cultures, d'ailleurs, dont on doit se méfier, parce que les excréments des animaux peuvent être également porteurs. Et il faut bien laver les fruits et les légumes que l'on mange. Aussi.
Et les agriculteurs, moi, c'est un sujet que je tiens beaucoup. Je suis fille de paysan moi-même, j'ai toujours revendiqué. Donc, c'est un milieu que je connais bien.
C'est pour ça que je veux les remettre.
Mais moi, je n'ai jamais jeté la pierre aux paysans.
C'est pour ça que je veux le dire.
Je jette la pierre à des organisations syndicales qui, malgré les évidences accumulées sur la toxicité des pesticides, le fait que ces monocultures érodent les sols. Vous avez vu le dernier rapport de l'ONU, 40% des sols sur la planète sont complètement érodés et ça menace 3,5 milliards d'habitants. Donc voilà. Donc
et la vie à l'intérieur de ces terres, c'est-à-dire que les petits vers qui aéraient, qui se baladaient,
sont morts, les sols.
C'est fini.
Donc, et les racines des arbres qui permettent à l'eau de couler.
Il y a plein de paysans dans notre pays, agriculteurs dans notre pays, qui aimeraient changer de modèle, mais on a besoin d'une transition. On change pas. Moi, je sais sur la ferme de mes parents. Enfin,
il faut les aider. Il faut les aider parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume.
Voilà. Donc paraît-il qu'on va avoir un super ministère de transition écologique. Eh bien moi, dont acte. J'attends ça.
Rodolphe, je...
C'est comme les semences qui sont brevetées.
Rodolphe Gozlan, vous êtes directeur de recherche en écologie. L'écologie, l'étymologie, Leïla me l'a soufflé.
C'est... Oh, Icos, la maison.
Le discours de la maison.
C'est
ça
la
prouve
science
bien
de l'habitat,
C'est là où l'on vit et où on vit ensemble.
C'est là où on vit. Et en fait, sur les questions de santé, on s'est rendu compte, et les gens, et c'est vraiment un message à faire comprendre, c'est que tous ces agents infectieux qui nous menacent, et dans le passé et dans le futur, ils font partie de cette biodiversité. Ce sont des organes, au même titre qu'un papillon, au même titre qu'une belle fleur, au même titre qu'un arbre magnifique et centenaire. Donc c'est vraiment une intégration. Il faut pas en avoir peur. Ça fait partie de cet équilibre. Et si on veut protéger la biodiversité, on doit aussi protéger la diversité des virus, la diversité des bactéries. Et c'est ça. S'il y avait un message vraiment à faire passer que l'on peut comprendre d'un point de vue écologique et qui est utile à plus large échelle, c'est que les systèmes qui sont résilients, les systèmes naturels qui sont résilients, ils sont divers. Ils sont divers et ils sont entremêlés dans des réseaux complexes de diversité. À partir du moment où ils sont fragmentés, simplifiés, c'est là qu'ils deviennent fragiles. Les sociétés humaines, c'est la même chose. Plus elles sont diverses, plus elles sont interconnectées, plus elles sont solides. Et aussi bien au niveau régional, qu'au niveau national, qu'au niveau international. À partir du moment où on comprend que la force et la résilience par rapport à des catastrophes naturelles qui ont toujours existé, d'accord, mais qui, là, maintenant, on en crée de nouvelles et qui s'accélèrent. Notre capacité de résister, c'est justement de créer et de la diversité et du lien, de la résilience, quoi. Et ça, on le comprend très bien quand on étudie l'écologie. Parce que on comprend très bien qu'on fait partie d'une maison commune.
C'est passionnant de vous écouter et on, vous, et on le retrouve dans le film d'ailleurs, La Fabrique des Pandémies. Merci beaucoup professeur d'être venu à ce micro écologue.
Voilà. Et il est dans le film, hein,
bien sûr.
Il ouvre le film, dire Marie-Dominique.
Donc on non, est mais il est magnifique dans le film, je trouve.
Oui, ça je vous confirme.
Bon, d'accord, tes cheveux, tout ça, mais la manière dont tu parles, c'est vrai. Hein
mais il est beau aussi.
Parler de Lucien de Bourouli.
Tanguy Bassureau,
on a tous très envie de vous globalement là.
Tanguy, toi d'abord.
Hein. Je vous parlais des cigognes. Vous pensez que ce sont des oiseaux bien et pas du tout. Ce sont des charognes. Fuck les cigognes.
Ok, on en parle après. Ça tombe bien. C'est le jour où il faut le dire ça. On en parle après les infos.
Bonjour,
Tanguy Bassureau, Daniel Morin.
Bonjour, madame.
Et nos invités, Juliette Binoche, Marie-Monique Robin et le professeur Roselan qui est resté également avec nous. Juliette Binoche, vous avez mis votre anglais, votre notoriété, votre image au service de cette fabrique des pandémies, parce que ce qui est formidable, c'est que vous voyagez sur la planète à travers ces... Combien de pays vous m'avez dit tout à l'heure ?
7, plus 7, la France, 8. Ouais.
7, c'est 8 pays, donc, pour interroger des chercheurs, des écologues, découvrir le zoonose, c'est-à-dire la manière dont les virus passent de l'animal... J'ai mal dit, non ?
C'est pas zoonose.
Zoonose, pardon. Voilà. Passe de l'animal à l'homme. Certains animaux sont des ponts, d'autres sont...
épidémiologiques.
Exactement. D'autres, au contraire, nous protègent de ces virus, puisque des animaux sont des prédateurs et finalement mangent celui qui porte le virus. Donc, on va plus atteindre ce virus, parce que ils ne portent, même après l'avoir mangé, ils ne porteront pas le virus, et donc il n'y a pas de risque à consommer.
Ça, ouais.
Exactement. C'est l'actrice de notoriété mondiale, c'est la maman, c'est la citoyenne qui participe à ce documentaire. Comment vous l'avez vécu ?
Qui était consciente grâce à sa maman qui l'avait éduquée, et on allait dans les fermes écolo déjà à l'époque dans les années 70 pour aller chercher. On sortait, en fait ma mère sortait des années 60 où j'avais mangé beaucoup de poulet fumé sous plastique, et en fait la conscience de ma mère a fait que, en regardant René Dumont, mais en étant finalement dans la campagne.
René Dumont que personne n'écoutait à l'époque, qui avait déjà tout dit, incroyable.
Et donc, avec la conscience de ma mère, finalement, elle m'a éduquée. Et je crois que depuis, après, quand je suis arrivée dans la grande ville Paris, je suis tombée malade et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'avais pas un cancer, mais j'avais des problèmes, et en fait, j'ai compris...
Comme des allergies, de l'asthme, il y a plein d'enfants
voilà,
qui...
Et ça m'a fait en fait chercher réagir. Et comprendre D'accord. ce qui se passait. Et à partir de là, je suis revenue vraiment à cette base-là, de bien manger, de bien me nourrir, pour pouvoir me aider aussi d'aller vers des médecines parallèles, et pas l'allopathie qui sauve des vies, soit, mais qui n'essaye en fait de faire partir que les causes et pas que les conséquences au lieu d'aller aux causes. Et moi, j'avais envie de comprendre les causes de ce dérèglement-là de mon corps. Et à partir de là, le corps de la planète comme son corps à soi, c'est lié, et c'est important d'aller chercher par là.
Cette image, professeur Gozlan, elle est qui est efficace d'ailleurs, c'est de se dire que finalement la planète c'est comme un corps, c'est-à-dire que tout est relié, tout est interconnecté, et tout a forcément des conséquences sur l'autre partie.
Ça a été théorisé sous l'idée de Gaïa, hein, la planète mère, mais effectivement, et je pense que le film le montre bien, la crise qu'on a vécue le montre bien, c'est que il n'y a pas de dissociation. On fait partie de ce système-là. La nourriture qu'on met dans nos corps, c'est aussi de la santé, hein. C'est aussi de la santé. Et la façon de regarder, parce que ce qui est beau dans le film, c'est l'émotion de Juliette aussi, parce que nous-mêmes, en tant que chercheurs, on est rentrés dans ce métier et la passion, elle est développée par l'émotion au départ. On est attiré par l'émotion, parce que les systèmes sont tellement beaux, la nature est tellement... Il y a quelque chose de tellement spirituel, en fait, dans la nature, qu'on a besoin de la comprendre. Donc, le scientifique, il développe des outils pour essayer de comprendre cette spiritualité-là. Mais on peut la recevoir à plein niveau, en fait. Et c'est cette reconnexion qu'il faut qu'on fasse. Mmh. Et ça passe par des films comme Marie-Monique Robin a fait.
Quoi. Vous êtes chercheur, et tout à l'heure, je vous ai pas posé la question, je la pose maintenant. Que cherchez-vous, en ce moment?
On travaille sur les antibiorésistances. Alors, ça, c'est aussi des maladies infectieuses, hein, qui sont créées par l'homme, parce qu'on utilise les antibiotiques de façon pas régulés, dans des endroits où malheureusement la production animale est faite un peu dans des conditions
sanitaires sommaires,
mais essentielles, parce que les équilibres, il n'y a pas de marge de résilience, et une perte de production, c'est aussi une catastrophe sociale et humanitaire. Donc on se retrouve dans des situations où on crée nos prochaines pandémies.
C'est ce que j'allais dire, voilà, c'était la question suivante. Il y en aura forcément d'autres?
Ben, voilà. Sur ces questions-là, par exemple, Edith Hurd, qui est la responsable européenne du laboratoire de biologie moléculaire, a dit que la prochaine pandémie, ça sera l'antibiorésistance. On parle de 10 millions c'est-à-dire de morts par an. 10 millions de morts par an. Le Covid, c'est rien à côté. Vous
les antibiotiques ne feront plus rien pour nous protéger, ouais, parce que nous serons devenus résistants, habitués, accoutumés à...
Parce que les pas nous seront
super
résistants.
Super bactéries, très résistantes.
C'est les pathogènes qui vont devenir résistants, et donc on ne pourra plus soigner. Enfin, ouais, déjà, on arrive dans des problématiques dramatiques, quoi.
Mais on arrive à un temps où c'est important de se poser des questions. Un temps où c'est important de désavoir, de sortir un peu des mécanismes, des habitudes qu'on a eues.
Et de réapprendre à vivre ensemble.
Et de se poser des questions et d'être humble. Alors, oui, face au savoir des scientifiques qui sont en train d'étudier, mais aussi intérieurement. Comme, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie toujours d'avoir, de conquérir, de garder, de mettre des barrières? C'est toutes ces questions-là qu'il faut pouvoir se remettre en question, aussi bien dans nos rapports avec les uns et les autres, mais aussi notre rapport à la nature et aussi à notre corps. C'est toutes ces questions-là importantes.
8 pays, 4 continents visités dans ce formidable documentaire, optimiste quand même, puisqu'il nous montre qu'il y a un avenir possible grâce à cette biodiversité. Ça passera sur Ushuaïa TV le 22 mai, sur France TV Outre-mer le 23 mai, et différentes projections seront organisées un peu partout en France avec des débats derrière. Et puis la RTBF et la RTS diffusent également ce documentaire à voir absolument, La Fabrique des Pandémies. Merci professeur Gozlan, bonne journée, et surtout allez vite chercher et trouver maintenant, parce que je vous ai retenu, peut-être qu'on sauve la planète.
En
vous libérant, on sauve la planète. Voici Tanguy Passion.
J'ai horreur des êtres humains. Je sais qu'ici on en reçoit un, voire deux par jour, c'est trop. Je dis pas ça pour vous, chers invités, mon propos revêt ici un caractère plus général. L'être humain a pourri la planète, sali les océans, créé le Sarwell, cet atroce pantalon à trois jambes qui ne va qu'aux gens qui vivent près d'une centrale nucléaire défaillante. Je hais les humains. Pour l'an prochain, j'ai postulé à la chaîne Animaux, je serai entouré de chats, et ce sera mieux. Hein, regardez Marine Le Pen, elle vit ça, elle a l'air bien. Hein, tous les 5 ans, l'Élysée lui passe sous le nez, et ça a l'air de l'affecter autant que Bruno Retailleau si on annonçait la fin du trafic mondial de shit. Longtemps, j'ai préféré les animaux aux êtres humains. Et j'aime Daniel Morin, qui est la synthèse des deux. Mais là, c'est fini. Même les animaux, je les déteste. Je voudrais dire aux animaux qui nous écoutent, parce que leur maître est calé sur France Inter, va te faire foutre, fifou. Et toi, Minouche, ta mère dans une litière sale. Mais oui, parce que le souci avec les animaux, c'est qu'ils sont en connexion avec la nature. Quand une bête a envie de faire pipi, elle fait pipi. Nous, on se retient. Même nos invités âgés attendent la pause pour faire. C'est pour ça que les aimes Pierre Arditi, Jacques Weber. Parce qu'ils sont dignes. Or, la nature est cruelle. Baladez-vous en forêt. Une fois sur deux, vous chopez des tiques. Quand c'est pas un chêne fragilisé par le réchauffement qui vous tombe dessus. Ensuite, cet exhibitionniste sorti d'un fourré que vous croisez, mais vous le serrez dans vos bras en disant le bien que ça fait de retrouver un être humain, lui répond « Ah purée, je te le fais pas dire, gros, viens faire un câlin. » Oui, parce qu'en général, alors les gens croisés nus en forêt sont très ouverts à l'autre. Hein, rarement un exhibitionniste vous dira « Non, je fais ça pour moi, on peut pas vivre en permanence dans le regard d'autrui. Hein, » ou alors il s'agit d'un individualiste distrait qui a oublié de s'habiller. « Ah, mais les profils des gens nus en forêt sont tellement divers, c'est fascinant. » Il y a aussi le bûcheron vanille. Moi, j'ai tout sur moi, j'ai pas besoin de hache. Bon, tout ça pour vous dire que la nature est cruelle. Tenez, hier, j'étais sur le site du journal L'Alsace et j'ai lu un article qui m'a dégoûté des cigognes. Je suis à deux doigts d'appeler Willy Schren, le président des chasseurs, pour lui dire « Will, mon bébé, prête-moi un de tes fusils d'ici 2 heures. Je te rapporte une tête de cigogne à foutre sur ton mur entre la tête de sanglier et la tête de Sébastien, ce vététiste que tu as pris à tort pour un cerf. » Je vous raconte l'histoire. À Saralbe, un village de Moselle, il y a un nid de cigogne sur le toit de l'hôtel de ville. À la différence du toit de l'hôtel de ville de Paris, où il y a Anne Hidalgo qui crie « J'ai fait 1,8%, laissez-moi, je saute ». La municipalité à Saralbe a donc installé une webcam pour qu'on puisse suivre la naissance des petits sans avoir à se taper l'ascension de la façade de l'hôtel de ville. Parce que si les mecs qui aiment les oiseaux devaient tous avoir une condition physique exceptionnelle, les épreuves des JO seraient remportées par des ornithologues. Alors la webcam, gros succès, Mélodie, la maman cigogne, a eu 5 cigognos. Voilà, 5 petits, alors qu'elle est censée livrer nos bébés à nous, humains. Hein, c'est comme si le livreur Uber Eats bouffait notre pizza, quoi. Bref, des milliers de gens chaque jour se connectent pour voir le nid. La plupart du temps, leur mélodie nourrit les petits en leur régurgitant dans le gosier. Ça m'a rappelé certaines soirées étudiantes à Rennes. Bon. Et globalement, on est tous là à dire, oh, c'est mignon, ils sont kikounets. Parce que les animaux bébés, ça nous émeut. Sauf que dimanche, vers 16h, en live, il y a eu un drame. Mélodie, cette saleté de cigogne qu'elle mange, c'est mort. Les poules qui ont fini en beignet chez KFC a balancé l'un de ses petits hors du nid.
Non.
C'est-à-dire qu'on se fait yèche, a activé le contrôle parental pour pas que nos gosses tombent sur des films où les gens se tuent, Rambo 5, où les gens se fouettent, 50 nuances de Grey, où les gens se questionnent, tous les films d'Éric Rohmer. Et là, en direct, ils assistent à un cigognicide. En plus, le problème, c'est que tout le monde s'était attaché au petit. À force de le regarder, ça ferait pareil avec vous, Nagui, si la présidente de France Télé, Delphine Ernotte, vous jetait du haut du bâtiment. Hein, ce qui fait qu'il y a des milliers, d'internautes traumatisés. Des gens dans le journal disent avoir pleuré. D'autres déclarent qu'ils n'aiment plus Mélodie, la maman cigogne. Si vous êtes dans le coin et que vous vous rendez à un bal costumé déguisé en cigogne, je pense que la foule vous lynche. Et là, vous dites sûrement pourquoi Mélodie a-t-elle fait ça? Eh bien, Dominique Klein, un ornithologue local, l'explique. En fait, bah, c'est la sélection naturelle. Hein, comme pour nous, avec les cons, quand ils font des selfies du haut d'une falaise et qu'un des cons du groupe du con dit, reculez les gars, je vois pas tout le monde. Alors, en fait, le petit était faible. L'ornithologue a ramassé sa dépouille. Il pesait seulement 480 grammes, comme Laurent Dutch. Et sa mère l'a sacrifié pour répartir la nourriture sur les quatre qui avaient le plus de chances de survie. Ça fait pareil à la cantine du Sénat quand ils ont prévu trop peu de langue de bœuf. Gérard Larcher enterre les autres vivants dans le jardin. Mais c'est ça la nature. Les plus faibles y dégagent. Et c'est là qu'on réalise que le concept de Koh-Lanta et du capitalisme ont été pensés en prenant comme modèle la vie des cigognes. La réalité, c'est que les animaux ne sont mignons que parce qu'on leur attribue des qualités humaines. Même un panda, vous dites, oh, le gros nounours, vous approchez, il vous met un coup de patte avec ses griffes et vous avez la face dans le même état qu'un érable au pied duquel aurait pissé un cycliste dopé. Les animaux sont des salauds. Si vous passez devant le zoo de Vincennes, faites-leur des doigts. Et sinon, rip, petit cigogneau, on ne t'oubliera pas. Si de là-haut tu nous vois, vide-toi sur ta mère. Elle le mérite bien.
Merci.
Très en colère.
Ouais,
Tanguy qui sera en spectacle après-demain jeudi au Palais des Congrès de Lorient.
Oui. La fabrique des pandémies, donc, sur Oujoya Télé et également sur RFO, enfin sur France O, pardon.
Ouais. France, non, c'est même pas France O, c'est
France TV Outre-mer.
Outre-mer.
Exactement. Faut que je me mette au goût du jour. Pardon. Deux événements.
Oui. Que va organiser la chanteuse Billie Eilish en marge des dates de sa tournée en Angleterre? C'est une initiative qui devrait vous plaire à toutes les deux, Marie-Monique et Juliette.
Donc c'est écolo?
C'est écolo.
Un massage de déchets.
Non, non. Encore bien, plus écolo.
Barbecue.
On va dire.
Un jardin.
Non plus.
Elle demande aux gens de ne pas venir afin d'avoir une empreinte carbone nulle.
Ah non, elle fait fabriquer ses t-shirts avec des trucs recyclés.
Non, c'est pas sur le merchandising, mais il pourra en être question justement.
Un repas bio.
Une distribution, des maraudes.
Non, pas des maraudes, pas un repas. Quelque chose qui va concerner le public. Après,
des
le concert.
Elle leur donne à manger.
Non.
Les
non,
gens
non.
seront compostés.
Non, pas compostés, les gens. Vas-y, je vais vous le donner. Alors, ouais. Elle va organiser des conférences sur le climat après ses concerts, se disant, j'ai mes fans qui se mobilisent, qui sont là, tant qu'à faire derrière, à moi de faire passer un certain nombre de messages avec des activistes qui vont pouvoir aborder la crise climatique, d'envisager aussi comment l'industrie musicale pourrait être plus verte, parce que c'est une façon de se remettre en question aussi, les avantages d'être vegan, parler de la mode durable. Alors ce sont c'est peut-être cette jeune génération qui donne le plus d'espoir, Marie-Monique.
Ah oui, moi je suis toujours contente de voir quand la pétition là, 15 000 étudiants, des mines normales, enfin toute l'élite, enfin entre guillemets, la française, des grandes écoles, dit une fois qu'on aura notre diplôme,
on s'engage,
on va aller planter, on va faire de la permaculture. Moi je trouve que ça c'est l'espoir, quoi. Parce que eux ils ont intégré le dérèglement climatique, quoi, et il fait partie de leur vie, quoi, et ils savent que s'il se passe rien ils vont morfler, quoi.
Et est-ce qu'il y a pas une petite tentation en ce moment à, je trouve, se cachant derrière une forme de bonne conscience, à des réunions un peu qui relèvent de l'escroquerie sur comment est-ce qu'on fait pour être pseudo écolo derrière des produits qu'on vend en vantant des mérites assez incroyables. Il y a un vrai merchandising autour. Il y a une communication hyper forte.
Très, énorme. Et il faut faire très attention parce qu'on peut facilement tomber dans le panneau. Nous, pour faire la production de ce film, on voulait plein de partenaires, on cherchait une entreprise qui aurait pu incarner le monde de l'entreprise. Bah, tu en trouves qui sont prêtes à mettre de l'argent dans un film comme ça, mais c'est du greenwashing, quoi.
Ouais.
Et quand tu regardes de plus près, qu'est-ce que ça a changé ? Rien. Donc,
nettoyer pour devenir vert. Y compris le terme bio.
Ouais.
La couleur verte, mais aussi l'expression bio.
Alors, n'empêche qu'il faut quand même les convaincre. Mais c'est peut-être que ceux qui peuvent les convaincre, c'est les jeunes qui arrivent dans ces entreprises et qui font transformer l'entreprise de l'intérieur. Moi, j'espère, et je le vois.
Ouais.
Après, ça résiste et tout ce qu'on veut.
Donc, tous les gens qui nous disent, en gros, oui, bon, d'accord, c'est un peu du greenwashing, mais au moins, ils font quelque chose pour la planète. On est derrière quelque chose, une escroquerie en réalité.
C'est une escroquerie, bien sûr.
Ouais.
C'est du mensonge, plus carrément du mensonge. Voilà, il y a une compagnie que je connais bien, Monsanto, qui passe son temps à faire croire que ces semences transgéniques, etc., et son Roundup sont une solution écologique, notamment au dérèglement climatique. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, c'est une escroquerie.
Enfin, moi, je m'épile avec ça marche très très bien.
et quand les chasseurs disent « j'aime la nature, c'est d'écologie, on règle la nature en faisant
on la
chasse.
Régule ».
Bah, la chasse, alors c'est très compliqué la chasse. Parce que moi, quand je suis née dans le Poitou-Charentes, mon grand-père, il allait tuer une perdrix parce que c'était une journée particulière et on mangeait une fois
de temps en temps.
Voilà. Bon, alors, au Gabon, la chasse, on comprend que la viande de brousse, c'est les seules sources de protéines. Donc la question, c'est comment on fait pour peut-être diversifier, etc. Moi, ce que je dénonce dans la chasse aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont cruelles pour les animaux. On n'est pas du tout dans une...
Ça, la glu, des trucs...
La glu, tout ça, mais même, on n'est pas du tout dans une... On n'est pas dans l'économie de manger de la viande, c'est pas ça le truc. Donc... moi, j'ai un problème avec les chasseurs, enfin, tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Alors qu'ils sont les gardiens d'écologie, excusez-moi... Pour moi, ce n'est pas vrai.
Non, et puis il y a la chasse spectaculaire, c'est-à-dire partir en Afrique, tuer un lion, un tigre blanc ou un éléphant.
Non, mais le chasseur du dimanche, le chasseur du dimanche qui va tuer en effet un oiseau pour le manger
ou un
à la maison. Non. Non, mais après, ils ne sont pas tous
fous. Oui, mais sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup d'oiseaux sont menacés, y compris chez nous, d'extinction, quoi, véritablement. Quoi,
C'est par les chasseurs ou c'est par les produits ?
Tout. Donc, on devrait limiter notre pression sur ces oiseaux-là. C'est ça que je veux dire. Enfin, voilà, par les produits, par les pesticides, par le dérèglement climatique. Il n'y a plus d'hirondelles, par exemple. Au Poitou-Charentes, quand j'étais gamine, moi, j'assistais au départ des hirondelles en septembre, mais c'était des milliers d'hirondelles. Moi, c'est fini, quoi.
Il n'y en avait pas trop.
Non, mais c'est la plus belle région du monde.
Qu'avez-vous appris essentiellement, Juliette Binoche, en faisant ce film? On l'a dit, l'enseignement sur le vivre ensemble, sur la biodiversité, sur le fait qu'il y a une possibilité et qu'il y a une vision optimiste à toute cette
ce que
ce
j'ai
drame.
Appris, c'est qu'il y a. En écoutant ces écologues de la santé, en fait, c'était plus une confirmation que mon intuition. J'étais déjà convaincue, disons, mais en ayant, en comprenant les mécanismes dans lesquels on est des choses visibles et invisibles, parce que les bactéries, virus sont invisibles, et comment ça nous revient en pleine figure. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, de vraiment de lier notre réalité qu'on a pu traverser les deux dernières années et l'explication des mécanismes de comment ces virus et bactéries à bas bruit qui existent de toutes les façons sous la canopée des arbres, parce que il faut que ça existe, c'est comme ça, c'est la vie, sinon on serait pas là, à la limite. Comment tout doit être interconnecté, comment on doit vivre avec ça, avec cette conscience-là, qui grâce aux écologues de la santé et les scientifiques qui travaillent comme Rodolphe, par exemple, sont conscients et aujourd'hui, plus que n'importe quand, finalement, aujourd'hui, on doit vraiment faire ce lien-là. Les humains doivent changer de conscience. Et c'est une possibilité géniale, mais à la fois hyper dangereuse. Parce que si on n'agit pas à temps, eh ben, on va dans le mur, extinction, comme c'est dit dans le film. Donc,
ne détruisons pas la maison dans laquelle nous vivons et gardons sa biodiversité.
Oui, parce que, en fait, les animaux, la nature, c'est notre miroir. Et si on ne sait pas regarder en face ce qu'on a fait de cette nature, c'est qu'on n'a pas le courage de nous regarder ce que nous avons fait. Et c'est le moment de le faire. Et c'est pour ça que de repousser 4 ans après, 4 ans après, 4 ans après, que toujours face à ces politiques et à notre conscience de nous citoyens, de voter, de comprendre l'urgence, tant qu'on n'aura pas fait ce pas-là, eh ben, on sera toujours derrière la barrière, quoi. Là, il s'agit d'ouvrir les barrières et d'agir.
Et agissons avec notre manière de consommer aussi, avec l'euro bien placé au bon endroit, au bon moment, parce que ça, c'est important.
Et le bulletin de vote.
Et des, on vote au quotidien, en consommant. Ouais,
c'est ça.
Oui, mais le problème, c'est comment on change d'échelle, quoi. C'est-à-dire comment on prend les bonnes mesures pour accompagner la transition des agriculteurs, par exemple. Vous voyez, tout ça, c'est des mesures qu'on doit prendre.
En tout cas.
Et aussi, pardon, il y a une chose dont j'ai vraiment pris conscience, c'est que l'agroforesterie, dont on ne parle pas encore assez, et qui a quand même a été, Rabhi, par exemple, Pierre Rabhi a beaucoup parlé de cette méthode de transition écologique importante, et qu'on a perdu ces méthodes-là.
Et qu'on peut emmener le bétail dans la forêt pour...
Que de relier la forêt, les animaux et les plantations, c'est possible, et pas d'avoir... une monoculture où on voit les champs de colza, les champs de blé, les champs... C'est vrai que moi je suis, mais désespérée. Quand je traverse la France en train, ça me désespère parce qu'on a des figures... Enfin, j'ai déjà dit ça, mais je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que c'est pas seulement de l'autre côté de la Terre, là où il y a les forêts tropicales qu'on est en train de détruire, c'est aussi sur notre territoire où il faut replanter. Il y a Maxime de Rossoland, par exemple, qui a tout un programme où il a envie de replanter. C'est quelqu'un qui travaille aussi...
Qu'on a reçu plusieurs fois ici, absolument.
Oui, et c'est important, ces initiatives, qui lient aussi bien les jeunes que les moins jeunes.
Merci Marie-Monique Robin et bravo pour ce formidable travail. Merci Juliette Binoche. Je rappelle, la Fabrique des pandémies, ça passera sur Ushuaïa Télé. Tu sais, toi, où ça se passe, Ushuaïa Télé ou pas?
Non, mais je vais en parler, mon ami, je vais en parler.
Dis-moi, puisque tu sais où on peut voir Ushuaïa Télé.
Alors, Ushuaïa Télé, pour ceux qui s'y intéressent un peu, ce qu'aurait dû faire Nagui, mais Dégui est un salaud, un pollueur, on le sait. Alors, numérotation Canal Plus et Canal 117, et numérotation TNT, c'est sur le canal 127.
Voilà, c'est gratuit, c'est important de le préciser, tout le monde peut le voir, ça passe le 22 mai. Merci mesdames, merci professeur d'être venu. Demain, Amanda Sterz sera notre invitée, et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand, qui est bien placé pour savoir que la biodiversité...
Ah, sacré pollueur.
Salut les amis, je vous ai écouté avec plaisir pendant 1h30, vous avez utilisé tous les concepts qu'on entend dans les carnets de campagne.
Absolument. Sauf que toi, t'as un très joli blouson aujourd'hui,
c'est ça la différence.
Je t'ai pas reconnu ce matin.
Il montre à la voix.
Il a un très très beau blouson, il est trop la classe. Bonne émission Philippe.
Salut
Philippe.